Maghalbi sur 102.
Les frustrations, les injustices, la peur, les menaces peuvent créer un mouvement de révolte, ce qui n'exclut pas un soulèvement de ce peuple manipulé par des politiciens ou des leaders. Ces derniers trouvent en eux un moyen de faire entendre leur voix. Pourtant, la solution est plutôt de se mettre ensemble et de négocier dans l'intérêt de tous. Nous allons suivre depuis Matadi ce reportage que nous propose Dani Kindandita.
Lorsqu'un individu se sent personnellement menacé ou lorsqu'il estime que ses intérêts sont en danger, il a tendance à chercher un endroit ou un groupe d'individus où il croit être en sécurité. Fin janvier 2007, le peuple Congo, à travers le mouvement politico-religieux Bundu dia Congo, a exprimé son ras-le-bol face au danger qui guette toute la population du Bas-Congo. Monsieur Mathieu Mpoukoudi et Mabaron nous présentent les raisons de cette révolte.
Le mouvement Bundu dia Congo, comme on l'aime bien l'appeler BDK, trouve ses origines suite aux frustrations cumulées, aux injustices que ne cesse de vivre la population du Congo par rapport aux autres communautés, aux frères, aux autres personnalités qui viennent travailler dans la province du Bas-Congo et qui se comportent véritablement en conquistadors. Et cela se justifie par la politique de l'embauche, par la politique de promotion en grade et même de recrutement dans certains services publics de l'État. Et nous le voyons, il y a des Congos qui ne sont pas promis et qui ont refusé l'emploi et à qui on ne sait pas promouvoir tout simplement parce qu'ils sont du Bas-Congo. Alors, il y a des frères d'autres communautés ou d'autres provinces qui viennent travailler au Bas-Congo, préfèrent importer, entre guillemets, la main-d'œuvre de là d'où ils viennent. Vous voyez, ça c'est une frustration qui ne peut que être à la base de la création de ces mouvements. En fait, au départ, c'était un mouvement de défense des intérêts Congo, mais du moment où le débat a été politisé, le débat a été déplacé sur le terrain politique, les détracteurs de BDK ne peuvent dire qu'ils sont un mouvement politique, mais en réalité, c'est un mouvement de défense des intérêts du peuple Congo.
Parce que dans l'entrée du jeu, nous devons comprendre que quand un peuple est opprimé, il finit finalement par se révolter. Bon, mais dans le cas de BDK, il ne s'agit vraiment pas d'une révolte, mais il s'agit d'une revendication légitime. Parce qu'en fait, il faut que les autorités gouvernementales arrivent à comprendre que le BDK ne font pas une révolte pour le plaisir de se révolter, mais ils sont en train de revendiquer des droits qui leur sont tout à fait légitimes. Et ces droits-là, c'est quoi? C'est ce que les gens jusqu'à présent ne comprennent pas. Parce que quand le BDK veut hausser le ton, les gens disent non, xénophobie, régionalisme, quelque chose de pareil, tribalisme, on arrive même au tribalisme. Alors qu'en réalité, ils ne réclament que ce que les autres provinces sont en train de vivre en termes de réalité. Le BDK réclame quoi au juste? S'il peut y avoir une représentativité de plus ou moins 70% des autochtones du Bas-Congo dans les entreprises qui sont basées au Bas-Congo, là le BDK cède les 30% aux autres. Ils peuvent venir travailler, c'est une province de la République démocratique du Congo, ils peuvent venir travailler, mais pas occuper tous les postes de premier rang dans la province du Bas-Congo. Donc c'est un peu ça le problème. C'est ce que les gens appellent révolte, mais en réalité ce n'est pas une révolte.
Pour un meilleur apaisement, il faudrait que le gouvernement engage un dialogue franc et sincère avec les adeptes, comme l'exprime un membre de la société civile que nous avons rencontré.
Comme solution, il ne faut pas que le gouvernement continue à négliger, parce que jusqu'à présent nous avons l'impression que le gouvernement continue à négliger la prise de position de BDK. Il faut que le gouvernement arrive à négocier avec le BDK. Nous apprenons partout, le gouvernement arrive à négocier avec certains rebelles qui se révoltent d'un coin à l'autre de la République, d'un coin à l'autre. Mais pourquoi ne pas négocier avec les gens de BDK pour honorer peut-être ce qu'ils réclament? leur donner peut-être un rapport positif, une suite positive à ce qu'ils réclament. Et en ce moment-là, la situation va être calme. C'est ce que demande Anselme, ils réclament. Ils ne réclament pas plus que cela. Donc si les Bakongo peuvent se retrouver dans leur province, au premier rang, Nemwanda Nsemi est satisfait et il ne fera plus de problème. Mais tant que les Bakongo continuent à occuper le poste de dernier rang, pendant que les postes de premier rang sont occupés par les autres, dans la province du Bas-Congo, les choses ne vont pas marcher.
Une négociation avec les adeptes de Bundu-Dia-Congo apaiserait la tension au sein de ces mouvements.
Merci beaucoup Dani Kinda-Nzita de nous avoir présenté ce reportage qui nous a fait le point de la situation. Aujourd'hui, nous parlons des frustrations, des injustices, de la peur, des menaces qui peuvent inciter tout un peuple à se révolter. Ça arrive. Nous avons pris un exemple, notamment en parlant du mouvement BDK. On va faire le point maintenant avec notre invité, Dani Kinda, plutôt notre invité, le professeur Okomba, qui est déjà avec nous dans ce studio. Le professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez suivi le reportage que nous a présenté Dani Kinda-Nzita. Premièrement, quelle est votre réaction?
Bon, ma réaction, c'est de constater qu'il s'agit d'un groupe qui se dit frustré, qui se dit opprimé du fait que les Bakongo seraient dominés dans leur propre province. Et que pour cela, il faut que les choses puissent être corrigées. Ils considèrent les autres groupes comme une menace, comme un danger pour des emplois, pour leur promotion dans la société. Ce sont les éléments principaux que je retire de ce reportage. J'estime qu'il y a des choses qu'il faut corriger nécessairement dans ces différentes déclarations, parce qu'elles ne correspondaient pas nécessairement à la réalité, et puis elles ne sont pas de nature à créer l'harmonie entre tous les groupes qui vivent dans cette province.
Mmh. C'est un comportement qui se manifeste parfois dans certains groupes. Alors quelles sont les déclarations typiques que peuvent utiliser certains leaders pour qu'on parle de frustration, des injustices, et créer ainsi un sentiment de peur et de méfiance au sein de la population ou même au sein d'un groupe?
On peut reconnaître ces déclarations à trois éléments. La plupart du temps, ce sont des déclarations alarmistes. Deuxièmement, ce sont des déclarations qui présentent d'autres groupes comme étant un danger, une menace pour soi et pour les membres de son groupe. Et très souvent, la menace qui est brandie dans ces déclarations alarmistes tourne autour d'un certain nombre d'éléments. Elle tourne autour de la vie physique. C'est ainsi qu'on entend parfois dire « Ah, mais ces gens-là sont très dangereux, ils souhaiteraient nous exterminer, ils souhaiteraient nous éliminer. » La menace qui est brandie tourne parfois autour des emplois. Voilà, parce qu'ils sont là, il n'y a pas d'emploi pour nous, ils sont à l'origine du chômage des membres de notre groupe. Et parfois, la menace tourne autour des biens matériels. Nos terres sont occupées, et ainsi de suite, et donc nous ne savons pas où cultiver. Et donc ce sont ces trois éléments qui caractérisent ces genres de déclarations alarmistes, et la plupart du temps, elle présente d'autres groupes comme étant un danger, et puis elle met au centre un certain nombre d'éléments, la vie physique qui serait menacée, les emplois qui sont pris par d'autres,
nous avons suivi d'ailleurs cela tout à l'heure à travers le reportage.
Voilà, et donc il faut faire attention à ce genre de déclarations, il faut les réfuter, il faut les rejeter.
Mais pour quel objectif des leaders créent-ils un climat de peur, de menace, de frustration, d'injustice au sein d'un groupe?
Je retiens essentiellement deux objectifs. Le premier objectif, c'est de manipuler les destinataires de ces genres de déclarations, et plus particulièrement les membres de son propre groupe. Et quand je dis manipuler ici, manipuler signifie faire quelque chose par quelqu'un d'autre, faire poser des actes par d'autres personnes. Donc l'objectif de la plupart des leaders qui formulent ces genres de déclarations ou qui créent un climat de menace, c'est de manipuler, d'amener les membres de leur groupe à poser des actes qui, pour la plupart du temps, sont des actes répréhensibles. Et je souligne ici que très souvent, les groupes sont très manipulables dans des contextes de peur et de menaces. Parce que vous savez, la peur du danger et le souvenir de la violence dont on a été victime dans le passé, ce sont des éléments qui déterminent les comportements et les actes des individus.
Mmh. Tout à l'heure, on a donné un exemple avec notre confrère Dani Kinda, qui nous a justement donné l'exemple du groupe spirituel BDK. Ce groupe nous a dit, tout à l'heure, un des membres nous a dit que ce sont des revendications légitimes. Alors, il peut arriver que des chefs de groupe politique ou spirituel, pour prendre l'exemple de BDK, cherchent peut-être à faire croire à des adeptes qui sont menacés. Mais il y a aussi un autre problème. Dans BDK, on parle de revendications légitimes.
Oui, je voudrais compléter ma réponse par rapport à la question que vous venez de me poser précédemment, parce que j'avais dit qu'il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de manipuler. Mais le deuxième objectif des leaders qui créent ce climat de peur et de menace, c'est de se donner une bonne image au sein de leur groupe, en leur disant, vous voyez, je veille sur votre sécurité, je veille sur vos intérêts, j'identifie les menaces, je vous alerte, ainsi de suite. Ce sont ces deux objectifs, se construire une bonne image, mais en même temps manipuler. Et en ce qui concerne ce qu'ils recherchent, c'est simplement parce que tant que les membres du groupe ne croient pas à la réalité de la menace, ils ne peuvent pas agir. Et donc, les chefs des groupes politiques ou spirituels font tout pour créer une croyance, pour créer une conviction.
Et pourtant, c'est dans leur propre intérêt.
Oui, généralement dans leurs intérêts. Mais ils se disent, tant que la croyance au danger n'existe pas, tant qu'il n'y a pas de conviction que le danger existe, les gens ne peuvent pas agir. Et donc, il faut tout faire pour donner l'impression que le danger existe réellement. Et donc, la création de cette conviction constitue, à mon avis, un élément très important dans la stratégie de manipulation de ces leaders de groupes politiques et spirituels.
Oui, mais pourtant, ces leaders de groupes spirituels, la population n'arrive pas à saisir que ce sont des revendications qui sont dans leur propre intérêt, parce qu'eux parlent des revendications légitimes. Et ils arrivent à faire croire cela à la population.
Oui, pas toute la population. Il y a des gens qui sont capables d'analyser ces genres de déclarations. Vous savez, il est difficile de tromper tout le monde. Il y a des groupes qui sont manipulables, qui n'arrivent pas à décoder ce genre de messages, à comprendre quels sont les objectifs qui sont cachés. Mais la population, très souvent, une bonne partie de la population arrive à décoder, à comprendre ce qui se passe. Et en général, ces leaders ne sont pas nécessairement suivis par l'ensemble de la population. Et donc, c'est sur quoi il faut insister ici, c'est que la population doit faire attention à des déclarations qui mettent en cause d'autres groupes, qui présentent d'autres groupes comme étant des menaces. Et à partir du moment où on entend ce genre de déclarations, il faut se méfier, il faut le rejeter et il faut les critiquer.
Mais est-ce qu'il peut arriver que des groupes minoritaires soient menacés? Tout à l'heure, on a suivi l'exemple. Il y a un membre de ce groupe spirituel, le BDK, qui nous a dit, nous revendiquons tout simplement les postes, 70% de postes pour les natifs du Bas-Congo et le reste pour ceux venant d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il peut arriver que ces groupes peuvent se dire, il peut arriver qu'ils se disent qu'on est menacés?
Ouais, l'histoire récente démontre qu'il arrive que des groupes minoritaires développent l'idéologie de la menace. Et les exemples existent. Ce qui se passe à l'est du pays, par exemple, où un groupe minoritaire estime que les membres de son groupe sont menacés, ils sont en danger, et par conséquent, il faut prendre les armes pour les protéger. L'exemple que nous venons d'entendre dans le reportage, le cas du groupe Bundu Dianguko, c'est encore un autre exemple d'un groupe minoritaire qui se sent menacé. Donc, l'histoire donne des exemples des groupes minoritaires qui développent des idéologies de la menace. Cependant, tous les groupes minoritaires ne se sentent pas automatiquement menacés. Le fait d'être minoritaire n'entraîne pas automatiquement un sentiment de menace. Vous savez que dans notre pays, dans toutes les provinces, on trouve une coexistence plus ou moins harmonieuse entre des groupes minoritaires dans la plupart de ces provinces. Et ces groupes minoritaires ne se sentaient pas nécessairement menacés.
Mais alors comment réagir pour ceux qui ne sont pas dans ce groupe? Comment faire en sorte pour ne pas tomber dans le piège de ces leaders qui arrivent finalement à convaincre pas mal de gens?
Moi, je crois que pour ne pas tomber dans le piège de ce leader, il existe un certain nombre de mécanismes qu'il faut développer dans la société. Le premier mécanisme, à mon avis, c'est qu'il faut développer des relations avec tous les groupes, nécessairement. Il faut établir des contacts réels avec tous les groupes, y compris avec les groupes que l'on considère comme des groupes ennemis. Il faut mettre en place des mécanismes, des relations, des contacts réels et permanents. Et donc, il faut communiquer. La deuxième chose, à mon avis, il faut apprendre à connaître les autres, à les découvrir. Parce que tant qu'on ne connaît pas les autres, il est difficile de comprendre leur comportement, leurs actes. Et il n'est pas possible de découvrir la richesse de la culture de l'autre tant qu'on ne connaît pas l'autre. Mmh. Et quatrièmement, il faut donner la parole à d'autres. Il faut permettre aux gens d'exprimer leurs préoccupations, de dire ce qu'ils pensent, d'indiquer leurs attentes. Et ça va créer chez eux un sentiment de valorisation. Ça va renforcer le sentiment de la reconnaissance de leur légitimité dans la société.
Il y a un auditeur, justement, qui réagit tout à fait comme vous, hein. Il a suivi le reportage. Il a suivi également les propos contenus à travers les personnes que nous avons pu suivre. Il nous dit qu'il y a beaucoup de fausseté, hein, dans les déclarations contenues dans le reportage fait à Matadi. Donc, il parle de ceux qui ont eu à s'exprimer. Il y a bel et bien suffisamment de Bas-Congo dans tous les secteurs. Voilà. Parce que tout à l'heure, on disait que les natifs du Bas-Congo revendiquent les postes. Ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment de postes pour eux. 70%, ils devraient normalement les avoir, chose qu'ils n'ont pas. Mais lui dit qu'il y a suffisamment, bel et bien, de Bas-Congo dans les secteurs. Donc, voilà. Ça veut dire que, il y a, comme qu'il dirait, un faux message qui est passé.
Voilà, un faux message, il faut lui opposer un esprit critique, et il faut lui opposer la recherche des faits, parce que ce qui est très important pour détruire les préjugés, pour détruire ce genre de déclarations, il faut puiser des faits réels et puis les opposer. Mmh. Et pour terminer ma réponse à la question, je dis qu'il faut apprendre aux gens à construire des projets communs. Et il faut que les gens se retrouvent autour des projets dans lesquels tout le monde a accès à des positions de manière égalitaire. La construction des projets communs, ça cimente les relations sociales et ça favorise la solidarité dans la société.
Voilà. Alors, comment pouvons-nous aider tous ceux qui nous suivent à travers le pays à comprendre qu'il n'y a pas toujours de problème de dévaluation? Parce que, dans bien des cas, c'est ça, c'est cet esprit-là qui circule à travers certains groupes.
Vous savez, quand un groupe a été victime de violences très fortes, d'humiliations permanentes, et bien ces actes-là, ça provoque des blessures physiques, des blessures psychologiques. Et finalement, ces blessures impriment en quelque sorte leur personnalité et leur psychisme. Ça reste quelque part dans le subconscient. Cela fait qu'ils perçoivent le danger comme quelque chose de permanent autour d'eux. Ils sont très très craintifs. Et ils mettent en place une identité des victimes permanentes, des victimes potentielles permanentes. Et ça les pousse parfois à agir anticipativement. Ils disent, ah non, le danger est là, il faut attaquer pour ne pas subir la violence. Et donc, il faut faire très très attention à une fausse perception de la menace. Et il y a des actes de violence qui ont été posés à cause des erreurs d'appréciation.
Des exemples, professeur, il y en a?
Voilà. Oui, le danger n'est pas là, mais on estime que le danger existe réellement et donc il faut attaquer les autres et préventivement, ainsi de suite. On le voit à l'est du pays, dans les groupes qui s'opposent, où alors que il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'attaque, un groupe prend l'initiative d'attaquer en se disant, si on nous attaque pas, nous serons attaqués.
C'est ça. Donc. Or, la solution, c'est plutôt de se mettre ensemble et de négocier dans l'intérêt de tous. C'est ça l'idéal.
L'idéal, c'est comme je disais, c'est de mettre en place des relations, des contacts. Il faut que les membres de tout le groupe se retrouvent autour des projets. Il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut se parler. Donc, ce sont là les mécanismes. Il faut favoriser des intermariages. Il faut faire en sorte que les enfants des différents groupes se retrouvent à l'école, qu'ils apprennent à échanger, qu'ils puissent construire des projets communs dès le bas âge.
Voilà, à quoi bon s'entretuer, se battre, alors que la solution, elle est beaucoup plus simple.
Il n'y a pas de développement dans le conflit. Mmh. Là où il y a conflit, là où il y a des divergences permanentes, là où il y a violence, il n'y a pas de développement. Et personne ne peut se développer dans ce genre de situation.
Professeur Komba, on va suivre justement la conclusion réflexion que nous fait à ce sujet Marcel Concou.
Lorsque nous traversons une longue période de pauvreté et d'insécurité grandissante, nous entendons de plus en plus dans les médias, dans la rue et parfois même dans nos lieux de culte ou dans nos familles, des personnes dire que nous sommes en danger et que l'on nous en veut et que nous allons encore être victimes d'un génocide. Des hommes politiques exploitent nos blessures mentales liées à notre passé, ou alors ils exploitent le fait que notre groupe soit minoritaire pour nous faire croire que notre survie est menacée. Ces leaders se positionnent comme sauveurs et ils nous invitent à user de la violence à l'égard des autres groupes qui constituent cette menace inventée. Certes, des milices armées et monoethniques sont une des causes de l'insécurité et l'instabilité qui règnent dans notre pays et constituent une réelle menace. Mais nous devons faire attention. Cela ne veut pas dire que nous devons nous aussi nous armer pour répondre à cette menace. À la place, nous devons être capables d'analyser les faits et de nous poser la question. Est-ce que oui ou non, les autres groupes ethniques sont une menace à ma survie? Ne nous fions pas aveuglément à nos chefs et mettons en doute leurs paroles un instant. Entamons le dialogue avec les autres individus et groupes pour faire connaissance. Ainsi, nous réaliserons qu'ils ne nous veulent aucun mal et que, au contraire, ils souhaitent que nous vivions d'égal à égal au Congo. Rappelons-nous de ce proverbe qui dit que l'autre ne constitue pas une menace, mais une chance.
Merci beaucoup Marcel Concou pour cette conclusion. Professeur Okumba, on va bientôt se quitter. Peut-être qu'il faudrait conclure, hein, apporter peut-être un plus à nos auditeurs qui nous suivent. Qu'est-ce que vous leur diriez?
Oui, juste pour dire que face à des déclarations qui sont formulées par des leaders qui cherchaient à créer un climat de peur, un climat d'antagonisme, il faut opposer à ces déclarations des faits puisés dans la réalité. Parce que la plupart du temps, vous allez voir que les préjugés et ces genres de déclarations ne résistent pas aux faits. Et c'est là où la presse doit intervenir. J'estime que les journalistes, d'autres intellectuels, les historiens également doivent faire des études pour chaque fois détruire ce genre de déclarations.
Merci beaucoup, professeur Okumba, d'avoir répondu à nos questions. Nous rappelons que vous êtes docteur en communication et expert pour l'ONG Bene Valencia. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Je vous remercie également.
Et voilà, Jérémy Longuevo, ainsi que vous, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quoi de plus normal que de vous dire merci d'avoir été des nôtres, hein?
Oui, ben, ça serait ingrat de notre part si on se refusait de dire merci à tous nos auditeurs qui nous ont accompagnés depuis 9h du matin jusqu'à 7h, donc en heure de Kinshasa. Nous prenons rendez-vous avec eux demain.
Demain.
C'est demain, j'ai pensé déjà là.
Demain, de 9h à 12h.
De 9h à 12h pour un autre numéro d'Okapi Action.
Allez, nous remercions également tous ceux qui nous ont assistés, notamment Willem Lungamba, qui était à la mise en onde, Marcel Ngombo à la coordination de l'émission Okapi Action, sans oublier également Tati Mapoku, qui était à la réalisation. Merci encore. Sachez que dans un instant, notre confrère Jacques Matande nous rejoindra pour le point de l'actualité. Et puis juste après, rendez-vous avec toute l'équipe d'Okapi Mama. Pour la présentation, vous retrouverez Karine Galimbalaya.